que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence.
Bonsoir, bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Ondes Femmes, Radio Zone. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève. Et puis c'est bientôt Noël, vous n'oubliez pas, n'est-ce pas? À Noël, on fait des petits cadeaux, c'est les étrennes. Alors, ouvrez vos portefeuilles, dépêchez-vous, cotisez pour que Radio Pleine Lune, Ondes Femmes, que Radio Zone vive, survive, soit plus belle. Achetez une carte d'auditrice ou une carte d'auditeur et pourquoi pas une idée de cadeau originale, n'est-ce pas, à tous vos copines et tous vos copains. Une carte d'auditrice et d'auditeur pour Radio Zone et Radio Pleine Lune. C'est facile à commander. Vous téléphonez au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Lausanne, où vous nous écrivez à Ondes Femmes Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Alors au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, nos nouvelles, suivies du Memento. Et puis à 20h, Marjolaine a fait une très très belle rencontre.
Oui, alors j'ai rencontré Bernadette Bidaud, une conteuse du Poitou, et tout ce qu'elle a à nous dire, c'est vraiment très intéressant. On aura même une petite partie de son spectacle. Je crois que ça valait la peine quand même de la rencontrer. C'est une fille charmante. Je repasse le micro à Viviane.
À 20h, rendez-vous avec une conteuse. Dans quelques instants, nos nouvelles.
Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos nouvelles. Aux États-Unis, les conflits professionnels entre les deux sexes se multiplient. L'affaire Clarence Thomas, le juge noir qui a été nommé à la Cour suprême, a déchaîné les passions. Et cette affaire a été également un élément qui a fait remonter à la surface, bien sûr, tous les innombrables cas de harcèlement sexuel auxquels sont effectivement confrontées les femmes au travail. Mais aussi, d'une façon plus générale, il a mis en évidence la frustration que ces femmes ressentent à l'idée de n'avoir pas acquis la place qui leur revient dans la vie professionnelle et sociale et politique. Dès les premiers jours de l'affrontement Thomas Hill, des femmes parlementaires ont posté sur les marches du Capitole devant les caméras de télévision et en brandissant des pancartes portant les statistiques officielles d'un congrès convaincu de machisme. Deux femmes sénateurs seulement siègent au Sénat face à 98 hommes. Et 93% des représentants à la Chambre sont des hommes. À cela, on pourrait encore ajouter les seules trois femmes PDG en 1990 dans la liste des 500 premières entreprises américaines, alors que les femmes représentent actuellement près de 45% des salariés américains. C'est donc dans ce contexte aggravé par le fait que les viols, agressions, violences diverses commis à l'encontre des femmes n'ont jamais été aussi nombreux qu'actuellement aux États-Unis qu'il faut donc replacer le refus des femmes d'accepter le harcèlement sexuel dont 40% d'entre elles avouent avoir été victimes à un moment ou à un autre dans leur vie professionnelle. Un phénomène qui a contraint les entreprises à réagir en édictant des règles qui se veulent draconiennes pour, entre autres, faire face et essayer de limiter la cascade de procès. On a par exemple le cas d'une femme, agent de comptoir d'une compagnie d'aviation, qui a été licenciée pour avoir refusé de se poudrer le visage et de mettre du fard à paupières. Elle a finalement été réintégrée sous la pression de ses collègues et des syndicats. Il y a également l'histoire de deux jeunes femmes policiers d'un commissariat en Californie qui ont mis 3 ans avant que soient reconnues les agressions quotidiennes de leurs collègues mâles et que les tribunaux leur versent 3 millions de dollars pour le préjudice subi. Pour essayer de limiter ces problèmes qui affectent non seulement l'entreprise, mais aussi l'armée, l'administration, le Congrès, les grandes firmes ont généralement institué leur politique maison sur le harcèlement sexuel. Une banque a ainsi codifié les interdits parmi lesquels, je cite, « les conversations orientées vers des sujets sexuels, les avances non sollicitées et l'usage de l'autorité pour obtenir des faveurs sexuelles ». La compagnie de téléphone AT&T va plus loin en prévoyant dans son règlement intérieur non seulement une sanction disciplinaire, voire le licenciement, mais aussi l'éventualité de poursuites judiciaires pour les motifs déjà évoqués, mais auxquels s'ajoute la disposition sur le lieu de travail d'objets ou d'images suggestifs à caractère sexuel. Dans ce dernier domaine, une nouvelle pièce à conviction a été versée au dossier début novembre avec la plainte déposée dans le Minnesota par 5 femmes employées contre la direction de leur entreprise, la brasserie Stroh, accusée d'avoir présenté une image dégradante de la femme, des modèles posant en bikini, dans une publicité maison destinée à la télévision. Une première qui pourrait obliger nombre de compagnies à revoir la nature de leur message. Cet impressionnant catalogue de limitations a été bien sûr mis en avant en priorité par les entreprises, mais aussi par d'autres organismes, notamment internationaux, où le facteur multiculturel, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas toujours considéré comme un plus par les femmes qui y travaillent. À l'ONU, par exemple, où les personnels féminins représentent 30% des employés, mais 9% seulement des cadres, les principales victimes de harcèlement sexuel sont les femmes qui ne disposent pas de contrat permanent et celles dont la culture d'origine ne prend pas en compte de la même façon que la culture américaine la notion justement de harcèlement sexuel, ce dont savent profiter certains diplomates et fonctionnaires de l'organisation. Pendant longtemps, le problème a été ignoré, souligne la représentante d'un mouvement de femmes au sein des Nations Unies. À présent, l'organisation dispose d'une commission de discrimination qui se saisit des plaintes et qui enquête lorsqu'il le faut, ainsi que d'une commission paritaire de recours. Élargie au vaste débat sur les violences contre les femmes dans le monde, la question du harcèlement est aussi évoquée officiellement, mais de façon assez subtile, à l'Assemblée générale. Cette année, la Commission sociale des Nations Unies a consacré en octobre plusieurs journées aux discriminations dont sont victimes les femmes, mais sans jamais mentionner le terme précis de harcèlement sexuel, qui pour certaines délégations du tiers-monde fait encore figure, je cite, de délit de pays riches. Une timide avancée a toutefois été opérée en octobre avec la recommandation formulée en session par le Conseil économique et social d'élaborer un instrument international qui traitera de ce problème. Ce sujet donc qui secoue les États-Unis se répercute également en Europe et entre autres en France. Il n'est pas tout à fait à l'ordre du jour, bien que sur le plan juridique, une modification de la loi dans ce domaine devrait revenir en seconde lecture à l'Assemblée nationale au cours de cette session. Ce texte, s'il est adopté, prévoit entre autres de punir d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait, je cite, de solliciter par ordre, contrainte ou pression des faveurs de nature sexuelle commis par tous les moyens par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions à l'occasion ou dans l'exercice de l'activité professionnelle de la victime. Pour compléter cette notion et l'étendre aux pressions menées par les collègues, Véronique Neyers, secrétaire d'État aux droits des femmes, envisage une modification du Code du travail qui permettrait aussi de prévoir une protection des témoins et la responsabilité des chefs d'entreprise. Dans ce sinistre jeu du harcèlement sexuel, les femmes se retrouvent souvent coincées entre 2 choix insupportables, céder avec dégoût ou se faire licencier. Les femmes seules avec enfants sont bien sûr les plus vulnérables. Le phénomène est très difficile à chiffrer. Une dernière étude au niveau européen remonte en 1984. Elle révèle que 10% des femmes interrogées assuraient avoir fait l'objet d'un chantage sexuel de la part d'un supérieur hiérarchique au cours de leur vie professionnelle.
Radio.
Aujourd'hui, 1er juillet, la Terre a 3 milliards d'habitants.
Radio Pleine Lune 3.8 MHz. Oui, c'est toujours nos nouvelles. On s'est trompé de jingle, mais notre musique reviendra dans 2 minutes. En attendant, continuons avec nos nouvelles. Toujours aux États-Unis, la règle du bâillon instituée par le président George Bush. Pour rendre l'avortement de plus en plus difficile aux États-Unis. La bataille contre l'avortement avait été au cœur de la révolution néoconservatrice des années 80. Elle pourrait bien être un des thèmes dominants de la campagne pour l'élection en 1992. Le président Ronald Reagan avait été en première ligne pour obtenir le renversement de la fameuse décision prise par la Cour suprême en 1973, le fameux arrêt Roe contre Wade, qui avait fait du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans certaines conditions une des libertés protégées par la Constitution. Longtemps, George Bush fut dans le champ des partisans du libre choix avant de se lancer soudainement dans celui de la droite républicaine. Ça rapporte peut-être plus de voix. Sa plateforme de 1988 contenait un texte dur contre l'avortement. Il imposait au président de ne nommer que des juges opposés à l'arrêt Roe contre Wade. Une des tactiques suivies a aussi été de promouvoir dans les États des législations rendant l'interruption volontaire de grossesse de plus en plus difficile. Mission accomplie dans l'Utah, dans le Missouri et en Louisiane. Dans ce dernier État, les élus ont voté une des législations les plus répressives de l'histoire du pays. Les médecins risquent 10 ans de prison pour une interruption de grossesse, même dans le cas de viol, inceste ou danger pour la vie de la femme. L'avortement n'est autorisé qu'à certaines conditions encore plus restrictives. On se demande lesquelles. Dans le district de Columbia, le président Bush a mis son veto à une disposition votée par les élus qui autorisait cliniques et hôpitaux disposant de fonds publics à donner des conseils sur les possibilités d'avortement. Les femmes du district doivent aller s'informer ailleurs. Les opposants à l'avortement ont remporté cette semaine une autre victoire importante en obtenant une extension au niveau national de ce qui existait déjà à Washington. Ils ont imposé ce que l'on appelle ici la règle du bâillon. Dans toutes les cliniques, hôpitaux et centres de planning familial fonctionnant sur fonds fédéraux, les médecins ne seront plus autorisés à informer leurs patientes sur les possibilités légales d'interruption volontaire de grossesse. Il y a longtemps que l'administration républicaine cherchait à glisser cette disposition dans la législation sociale. Cette année, la Chambre des représentants, à majorité démocrate, avait introduit dans le budget un amendement prohibant expressément cette règle du bâillon. M. Bush y a posé son veto et les démocrates n'ont pas réuni mardi 19 novembre la majorité des 2/3 nécessaires pour passer outre au veto présidentielle. Les partisans de l'avortement que l'on trouve dans les deux partis, républicains et démocrates, ont fait valoir que la règle du bâillon allait à l'encontre du premier amendement sur la liberté de parole. Et elle impose aussi des normes à une relation médecin-patient qui devrait rester libre et confidentielle. Par ailleurs, la clientèle de ces centres médicaux étant essentiellement composée de femmes pauvres, de ces femmes qui ne consultent qu'une seule fois durant toute leur grossesse et qui n'iront pas ailleurs, cela se fera au détriment de la santé publique. Cela veut dire encore que seules les femmes riches, parce qu'elles vont dans des établissements médicaux privés, auront accès à l'information sur l'avortement. En Suisse, une femme nommée présidente au Conseil des États, c'est la première session de la 44e législature. Elle s'est donc ouverte par l'élection d'une femme à la présidence. Il s'agit de Josie Meyer du Parti démocrate chrétien de Lucerne, qui a été élue par 41 voix sur 42 bulletins. Elle a été ovationnée par les nombreuses spectatrices à la tribune du public. Dans sa première allocution, Josie Meyer a plaidé pour les femmes et pour les minorités en général. À Lausanne, un chef de service barre l'accès des femmes à un poste qu'il considère à risque. Une commission de gestion s'offusque. Une femme peut-elle devenir une enquêteuse au domicile de certains clients pour le contrôle des habitants de la ville de Lausanne ? Question, en tout cas, le chef de service, lui, n'en a pas voulu. Un poste d'enquêteur ou d'enquêtrice a été à repourvoir au contrôle des habitants. L'annonce était rédigé de façon en bonne et due forme, en comportant également la mention féminine, mais le chef de service a refusé de prendre en considération les candidatures des femmes, prétendant, je cite, que ce n'est pas un travail à leur portée. En ultime ressort, il aurait argumenté que l'enquêtrice, je cite toujours, pouvait être envoyée chez des personnes de nationalité libanaise, voire turque. Et alors, s'est interrogé les commissaires de la commission de gestion. En automne 1990, un poste de délégué à l'égalité des sexes a été créé dans l'administration lausannoise. Quelques femmes ont déjà été promues au rang d'assistantes de direction, se réjouissent les commissaires. Les chefs de service restent par contre des perles rares. À Chafouze, l'âge de la retraite pour tous les fonctionnaires, hommes et femmes, mis à 63 ans. C'est ce que le Grand Conseil a adopté hier. La décision a été acceptée, mais elle a donné lieu à un vif débat. Après s'être demandé si une telle modification du statut des employés de l'État n'exigeait pas l'aval du peuple, les députés ont eu le loisir de se prononcer sur les différentes variantes proposées pour l'application du principe de l'égalité en matière d'âge de la retraite. Donc c'est décidé, tout le monde partira à 63 ans. Toujours en Suisse, le peuple votera sur une loi sur la sexualité. Cette loi qui avait été votée par les chambres fédérales en juin dernier. Un référendum lancé par l'Union démocratique fédérale, le mouvement Oui à la vie et l'association vaudoise des parents chrétiens a abouti. Le référendum est dirigé contre plusieurs points de la nouvelle loi. Il s'agit notamment de l'article prévoyant de ne plus punir les actes sexuels avec des mineurs de moins de 16 ans, si l'écart entre l'âge n'est pas trop grand. Et en outre, les auteurs du référendum n'admettent pas que l'homosexualité soit mise sur le pied d'égalité avec l'hétérosexualité du point de vue du code pénal. La première prison romande pour femmes s'ouvrira en avril à Launay dans le canton de Vaud. Elle pourra accueillir 54 détenus. Elle aura coûté 23 millions de francs. SIDA, malades et séropositifs prennent la parole à Zurich. On n'est pas encore mort, disent-ils. PVA, c'est ce groupe qui vient de se créer. Ça signifie personne vivant avec. Avec quoi ? Avec le SIDA, bien sûr. Association nationale qui a été fondée en février dernier. Elle est le lieu commun de la quinzaine de groupes d'entraide qui travaillent dans toute la Suisse. Au comité du PVA, la première présidente, fondatrice, Elam Basti, est morte au mois de juillet. C'est une Zurichoise, Iris Reutler, qui a repris le flambeau. Mais nous ne sommes pas encore morts, disent-ils tous, et vivre, c'est travailler, se loger, s'aimer, être respecté. Malmenés par des assurances qui les obligent à des tests, dont les résultats sont communiqués aux employeurs, bousculés par les incertitudes du secret médical, très peu aidés à domicile par des services socio-médicaux très peu préparés, visés par le code pénal, dont l'article 231 prévoit une peine pour la transmission volontaire de la maladie, exclus de tout voyage en Afrique du Sud, en Bavière, en Arabie Saoudite, en Australie, en Belgique, au Belize, en Bulgarie, en Chine, à Chypre, au Costa Rica, à Cuba, en Égypte, aux Émirats arabes, en Finlande, en Grèce, aux îles Vierges, en Inde, en Irak, en Libye, en Malaisie, au Mexico, au Mongolie, au Pakistan, au Papouasie, aux Philippines, Philippines, en Pologne, au Qatar, au Singapour, Sri Lanka, Syrie, Thaïlande, Tchécoslovaquie, URSS, États-Unis et même Venezuela. Les sidéens et séropositifs ont largement de quoi se rebiffer et ils sont venus le dire samedi dernier à Zurich. Nous reparlerons d'ailleurs de la journée sur le international pour le sida prévue samedi et dimanche dans toute la Suisse. Une femme chef à la protection civile à Genève, un cadre se rebiffe. Grave problème pour ce citoyen. Il est cadre dans la protection civile. Il refuse de travailler sous les ordres de la responsable locale, entrée en fonction le 1er octobre dernier. Il a fait savoir sa désapprobation par lettre et a dans le même temps déposé un dossier médical qui demande donc d'être exempté de service. Il s'est confié au journal Le Matin. Ce n'est pas la place d'une femme. La protection civile s'est totalement discréditée à mes yeux en acceptant cette domination. Cet organisme est déjà assez critiqué sans qu'on mette encore des femmes à sa tête. Rubrique de l'horreur. Une prostituée agressée à Genève. Le 26 août dernier, un Français aborde une prostituée dans une rue, monte avec elle dans son studio. Au moment de payer son dû, il s'empare du cendrier, frappe la femme à la tête. Pourquoi cet accès de violence ? Je n'étais pas dans mon assiette, a-t-il expliqué à son procès sans donner d'autres précisions. Autre histoire, attentat à la pudeur. Un Tessinois cuisinier a été inculpé d'attentat à la pudeur des enfants. La fille de son épouse, âgée aujourd'hui de 12 ans, a dit avoir subi les assauts de l'homme durant 5 ans. La chambre d'accusation a prolongé sa détention préventive. Et pour terminer, des nouvelles de l'absurde. Aux États-Unis, on retrouve la tuberculose. Le nombre des cas de tuberculose a progressé de manière rapide aux États-Unis, surtout parmi les personnes défavorisées. Cette progression est d'autant plus inquiétante que de nombreux patients développent une maladie résistante à tout traitement. On n'arrête pas le progrès. C'était les nouvelles Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, notre memento.
Money. Go out and fetch me some money. Baby, oh, leave me alone.